Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré Tanguy Vielle, l'auteur de La fille qu'on appelle, dans le cadre du prix littéraire de la région des Pays de la Loire au lycée Estournel de Constant, avec mes élèves de première et les élèves de seconde de Madame Bois. Les élèves de seconde ont remercié l'auteur, lui ont offert des lectures et des petits textes créatifs. Comme d'habitude, nous avons fait une lecture vidéo.
Et pourquoi vous avez menti ?
Je ne sais pas, c'était le maire, a-t-elle ajouté.
J'avais rendez-vous avec le maire.
Elle n'a pas dit qu'en général elle préférait mentir, qu'à son père aussi elle avait menti, et que si elle était revenue chez lui, c'était précisément pour ça, mentir et tout changer, comme on peut croire à 20 ans que tout s'efface et s'oubliera au seul déplacement de soi sur la carte des villes.
Mais aux policiers, il fallait bien qu'elle dise les choses telles qu'elles eurent lieu, telles qu'en effet, elle avait préféré ne pas les soumettre au maire, que donc, non, elle ne s'était jamais inscrite à l'université. Elle n'avait même pas terminé son lycée, et pour cause, on était venu l'y chercher à la sortie du lycée. Un jour, on l'avait accostée à cause de...
Et elle n'a pas osé finir cette phrase non plus, ni les deux flics la relancer, parce que sachant tous les trois qu'à cet instant, ils parlaient la même langue, ou plutôt le même silence, qui portait en son sein le même fait établi, qu'elle était belle donc, et portait sur son corps tous les critères de la beauté.
C'est comme ça, en tout cas, qu'avaient dû l'établir ceux-là qui ont débarqué un jour à la sortie de son lycée pour lui proposer d'entrer si précocement dans le monde des adultes.
Elle, à peine 16 ans, mais c'est exactement leur cible qui l'attendait sur le parking dehors et dont le métier consistait en cela, repérer les jolies filles.
Les traquer sur les plages ou dans les cours des lycées. Et puis jeter dessus le filet de mailles serrées dont elles, les filles élues, si elles avaient dit oui une fois, ne pouvaient pas plus s'échapper que des chiens errants capturés par la fourrière.
Laura, pas plus qu'une autre, ne sut accélérer le pas le long des grilles du lycée et leur dire
« d'aller se faire foutre ».
Quand ils l'abordèrent si frontalement, lui disant sans bargouiner
« Mademoiselle, ça vous intéresserait de travailler dans la mode ?»
Et elle avait pris ça pour une manière presque amusante de retenir son attention, assez pour s'arrêter et les laisser déplier la nasse de phrases amicales.
Par quoi, si elle voulait bien venir avec eux, ils pourraient faire un essai, quelques photos, juste pour voir, après vous ferez ce que vous voudrez.
Et quand 2 heures plus tard, elle s'était retrouvée avec 4 billets de 50 euros dans la main, forcément.
Si c'était ça le monde de la mode, alors elle signait tout de suite.
Ensuite, les questions ont commencé.
Pourquoi avez-vous choisi un sujet si ancré dans l'actualité ?
Je devrais déjà commencer par vous dire que c'est, en plus, c'est pas mon genre. C'est-à-dire, c'est pas... Parce que La fille qu'on appelle n'est pas mon premier roman, ça doit être le 8e, je crois. Et au contraire, j'ai tendance à essayer d'imaginer le roman comme un espace, je dirais pas qu'il me permette de quitter la réalité, mais enfin, un espace quand même un peu hors du temps, et... Puis ces dernières années, j'ai été un peu rattrapé par cette idée que quand même le roman ou l'écriture ou la littérature avait quand même quelque chose à voir, un dialogue à poursuivre avec la société, quoi, pour le dire vite. Et c'est comme ça que, déjà dans un roman précédent, je suis devenu un peu plus ce qu'on appelle un écrivain réaliste, si vous voulez. Et... De là à arriver à un sujet comme celui-là, c'est-à-dire, comme vous dites, un sujet d'actualité, un sujet dans l'air du temps, j'en reste le premier surpris parce que c'est difficile encore plus peut-être de faire de la littérature, c'est-à-dire de préserver un espace pour le roman qui ne soit pas déjà complètement envahi par le journalisme, voire simplement la polémique, quoi, en fait. Hein. Or, ça fait effectivement maintenant une dizaine, douzaine d'années. Enfin, on peut dire que ça a commencé au milieu des années 2000, que la question qui est maintenant, comment est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a un mot clé pour ça, peut-être l'emprise, le consentement féminin, et en tout cas est un sujet sur la table avec un certain nombre de scandales, de dénonciations, de procès aussi dans certains cas, mais aussi de silence, beaucoup. Alors, mais si je devais considérer que c'est ça le moteur qui m'a fait aller vers ce livre-là, je me dirais, mais il y a tellement de choses qui, dans les 20 dernières années, auraient pu ou auraient dû m'indigner pour créer l'énergie de faire un roman, que ça aurait pu aussi être... j'aurais pu m'intéresser à des questions d'inégalité sociale, j'aurais pu m'intéresser à des questions de migrants, j'aurais pu m'intéresser à des questions écologiques, etc. Donc après, ça va pourquoi ce sujet-là, à un moment, à force de lire des choses dessus, parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est quand même à force de lire des choses dessus. Et notamment certains articles de journalisme d'enquête, que j'ai trouvé plutôt dans des journaux comme Mediapart, par exemple, qui sont quand même au taquet sur la question. Il y a un moment... je crois que je ne peux pas dire autrement qu'il y a une forme de colère et d'identification personnelle. C'est très étrange parce que je suis un homme, pas une femme. Mais il y a quand même ça qui fait que j'ai quelque chose en moi s'est glissé profondément dans cette possibilité d'être victime. C'est-à-dire au fond, parce que, alors si je me l'explique maintenant avec un peu de recul... C'est qu'au fond, au-delà de la question purement du masculin-féminin, etc., je pense que c'est la question de la manipulation, de la domination sociale et psychique qui, elle, m'obsède depuis longtemps, dans plein de mes livres, mais qui a trouvé là un terrain, une scène, en quelque sorte, évidente. Et ce qui fait que c'est un livre qu'en effet, je n'avais pas prévu d'écrire, et que, presque du jour au lendemain, suite, pour être précis, à la lecture d'un article sur une affaire précise, je me suis dit, bon sang, mais là, je vais faire un roman. Voilà. Comme si j'étais une sorte de justicier et que par le roman, j'allais réussir à, entre guillemets, me venger, ou je ne sais pas, réparer quelque chose de cette indignation, injustice voilà, qui est criante, qui avait lieu. Alors spécifiquement par rapport à une affaire qui a inspiré ce livre, mais à vrai dire, qui ressemblait tellement aux autres... C'était comme l'archétype de ces histoires-là, telles qu'elles sont racontées depuis maintenant, je vous dis, une quinzaine d'années, quoi. Mais telles qu'elles existent, évidemment, depuis... toujours. On pourrait dire toujours, mais bon, elles ont leur spécificité, sans doute, dans le monde moderne, dans les relations aussi, qui ne sont pas des relations de... On pourrait dire dans le monde médiéval, d'une certaine manière, la chose, elle est posée dans les... Presque... Elle n'est pas discutable. Il y a... La pauvresse et le seigneur, quoi. Dans le monde moderne, il y a un déguisement de tout ça, quand même. C'est-à-dire que la jeune fille est aussi quelqu'un qui peut vouloir s'émanciper de quelque chose, croire dans, en l'occurrence, peut-être qu'elle va réussir quelque chose dans la vie grâce à la rencontre de ce type, etc. Donc, c'est là où la négociation est beaucoup plus perverse. Je ne dis pas qu'il faut revenir au monde médiéval. Mais, bizarrement, on se dit, mais ça crée des choses qui sont beaucoup plus hypocrites, si on peut dire. Voilà.
Pourquoi ne situez-vous pas dans le temps et dans un espace précis votre histoire ?
Peut-être pour Merci de poser cette question juste après la précédente, parce que c'est peut-être la continuité de ça. C'est que... Bon, au départ, on pourrait appeler le squelette de cette histoire-là, c'est un fait divers. Et en fait, là encore, c'est difficile, pour moi en tout cas... En tout cas, j'ai pas envie de faire des romans qui ressemblent à des études de mœurs, de faits divers. En tout cas, j'ai pas envie d'être... C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui disait « Tu vas quand même pas te salir les mains à faire une fable sociale qui serait comme ça, complètement dans la masse des faits divers, qui ressemblerait en fait à un article de journal, quoi. » Donc c'est peut-être un truc un peu aristocrate de ma part de vouloir chercher un régime d'exception pour la littérature. Et une des manières de m'extraire un peu de ce cambouis, là, de mettre les mains dans le moteur des choses un peu sales, un peu triviales, c'est peut-être d'essayer de rendre ça un peu intemporel. En tout cas, c'est pas le seul critère, ou c'est pas le seul paramètre pour y arriver, mais effectivement, peut-être de pas nommer, de pas mettre une ville précise, et de pas non plus trop dater, ça m'aide un peu à donner un peu d'air à cette histoire qui, sans quoi j'aurais l'impression d'être vraiment trop dans la réalité, quoi. Bon, mais c'est un critère parmi d'autres, parce que ça suffit pas. Et puis par ailleurs, Je nomme pas, mais... Bon, je sais pas, quant à la période, est-ce qu'on peut douter de la période? Je sais pas, il n'y a pas de repères. Si, il y a quand même un ou deux repères, par exemple. Si je me trompe pas, j'ai fait de pair Max, un champion de boxe, qui a été champion de France en 2002. Or, c'était il y a environ, dit le livre, une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, on comprend que ça se passe quand même dans les années 2010. Après, pour les lieux, ben, c'est à peine déguisé, puisque la ville ressemble fort à Saint-Malo. C'est toute personne qui connaît Saint-Malo le reconnaît tout de suite, pratiquement. Je crois même qu'il y a quand même des notations qui font qu'on sait que c'est en Bretagne. Donc, c'est une manière de tricher avec le réalisme, mais pas non plus de l'éluder complètement. C'est juste une manière de ne pas insister dessus, plutôt. Voilà. Ce qui fait que si je devais faire une différence très technique, je dirais que je veux bien être un écrivain réaliste, mais je ne suis pas un écrivain naturaliste.
Si vous y avez un peu répondu vaguement, est-ce que votre livre contient une part d'autobiographie ?
Alors, oui, si je devais... il faudrait pas que je réfléchisse en répondant à la question, parce que, donc, pas au sens factuel, pas au sens de ce qui se passe dans le livre concrètement. Je ne fais pas de boxe, je ne suis pas une jeune fille, je ne suis pas mère, je ne suis pas homme politique. Enfin, je ne vois pas à quel personnage je pourrais avoir prêté des choses qui sont de ma vie personnelle. Mais un fond psychologique, une manière de distribuer les forces entre le bien et le mal, le faible et le fort. Si je devais répondre très concrètement sur la question autobiographique, je dirais que ça... Sans doute, c'est... Ben, j'ai grandi à Brest, par exemple, donc déjà une ville de province. Donc là, ça se passe à Saint-Malo, mais d'une certaine manière, ça, c'est le même genre de taille de ville, de petite ville de province. Et j'ai grandi dans ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie locale. C'est-à-dire plutôt du côté du maire que du côté de Laura. Et depuis l'enfance, comme dans toutes les familles un peu bourgeoises, on parle beaucoup d'argent. Et surtout, on voit, enfin moi je vois maintenant avec le recul, je ne voyais pas quand j'étais plus jeune, mais comment se tissent en fait des réseaux très à vue dans une ville de province. Il y a sans doute les mêmes à Paris, mais on les voit moins parce que c'est les organes du pouvoir et tout ça. Ça se passe à des échelles qu'on ne comprend pas toujours. Mais là, c'est très clair. Dans une ville de province comme Brest ou comme Saint-Malo, alors plus à Saint-Malo peut-être, que je connais mal, mais parce qu'il y a plus d'argent. Brest n'est pas une ville très riche, donc il n'y a pas non plus une bourgeoisie. Mais ça n'empêche, ils ont leur restaurant, ils ont leur petit club d'affaires, ils ont leurs petits trucs, etc. Donc il y a quand même très vite des choses que moi, je considère comme étant la façon dont moi, enfant, je percevais le monde des adultes. C'est-à-dire un monde fait d'arrangements, de... Quand même aussi... ça m'a donné une lecture, pour ainsi dire, marxiste du monde, c'est-à-dire une lecture qui consiste à penser que le monde fonctionne sur la lutte des classes. En tout cas, que le monde est structuré en classes, très clairement, et qu'il y en a une qui confisque et l'autre qui subit. C'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi c'est l'autobiographique, il est politique en ce sens que c'est l'enfance qui m'a donné une grille du monde dont je ne me suis pas départi depuis. Et que, à certains égards, mes romans essayent de rejouer. Voilà, mais c'est pas de l'autobiographie au sens où il y aurait des anecdotes précises. C'est un univers. Puis la Bretagne aussi, bien sûr. Le paysage, la manière dont, si possible, les états d'âme des personnages se reflètent un peu dans les paysages. Ça, c'est des choses qui, ont, pour moi, sont très liées à l'enfance. La mélancolie et la mer, à la fois le rêve que la mère peut produire, mais aussi la manière dont elle renvoie en miroir ses propres manques, ses propres failles, les espaces de méditation qu'on y invente, la poésie des failles, des échappées même qu'on peut y trouver. Voilà.
C'était la première partie de la rencontre avec Tanguy Viel, l'auteur de La fille qu'on appelle, dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire, au lycée Estournel de Constant à La Flèche.